VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire de ce journal, au Cameroun, l'écrivain Patrice Nganang a été expulsé vers les États-Unis. En République démocratique du Congo, le doyen des prêtres de Kinshasa, convoqué par la justice. La Russie a perdu le contact avec Angosat 1, le premier satellite angolais de télécom, et une nouvelle frappe américaine en Somalie tue 13 Chebabs. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi le sport et l'économie, mais d'abord le journal. Au Cameroun, l'écrivain camerounais de nationalité américaine Patrice Nganang a été expulsé vers les États-Unis ce mercredi. Quelques heures plus tôt, la justice avait ordonné l'arrêt des poursuites pénales contre lui. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, a suivi les derniers instants de Patrice Nganang au Cameroun et fait le point pour nous.
C'est sous la contrainte policière que Patrice Nganang est sorti de la prison centrale de Yaoundé. L'écrivain exigeait, avant sa mise en liberté, une copie de son ordre d'expulsion du Cameroun et un document appartenant à un membre de sa famille confisqué par la police. Peine perdue, deux éléments d'une unité d'élite de la police camerounaise ont coincé Patrice Nganang dans leur voiture. Direction, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où l'attendait un avion pour être expulsé. Le matin, à la suite d'une brève audience, Christian Nganang Floris, avocat général de l'État, avait formulé l'arrêt des poursuites pénales contre Patrice Nganang. Sur ces entrefaits, le juge a acquitté le prévenu. C'est une décision politique pour un procès politique, a commenté Emmanuel Sim, l'avocat de l'écrivain, qui a par ailleurs critiqué les méthodes utilisées pour expulser son client et la rétention de son passeport camerounais. Patrice Nganang a passé 21 jours d'arrestation au Cameroun pour notamment outrage à corps constitué. Yaoundé, Emmanuel Jolentap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le doyen des prêtres de Kinshasa a été convoqué aujourd'hui par la justice. Il est reproché à l'abbé Vincent Tshomba d'avoir signé un communiqué appelant ses collègues curés des paroisses de Kinshasa à sonner les cloches de leurs églises tous les jeudis à 21h pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016, ce qui lui vaut une plainte d'un parti proche de Joseph Kabila. Les détails tout de suite avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'abbé Vincent Tshomba a été longuement entendu et démontré le contraire de cette accusation que nous qualifions de fantaisiste et d'inspiration politique, a déclaré son avocat, maître Georges Kapiamba, au sortir de l'audience de ce jour. Le curé de la paroisse Saint-Joseph de la commune de Kalamu a signé, début décembre 2017, un communiqué appelant les prêtres de Kinshasa à sonner les cloches de leurs églises chaque jeudi pendant 15 minutes à partir de 20h temps universel, 21h heure de Kinshasa, pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016, accord conclu par la majorité présidentielle et l'opposition sous la médiation des évêques catholiques. Les bruits provoqués par ces cloches auraient provoqué, selon l'accusation, la crise cardiaque dont a été victime Pambiyoka, un cadre du parti de l'ancien vice-ministre Willy Mishiki, proche du pouvoir de Joseph Kabila. Le prêtre accusé a été entendu par un magistrat du parquet de grande instance de Kalamu. Une confrontation entre le plaignant et l'accusé est prévue ce 29 décembre 2017. Maître Franck Kalalo, avocat de la partie accusatrice, souligne que cette plainte n'est pas teintée de politique. Il espère l'inculpation du prêtre catholique à qui il impute le dommage subi par son client. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Libéria, au lendemain du second tour de la présidentielle, les Libériens patientent dans l'attente de leur nouveau président. La commission électorale devrait annoncer les premières tendances entre l'ancienne star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, n'est-ce pas Eric Maniarakiza?
D'après les médias locaux, les premiers résultats envoyés par les bureaux de vote donnaient en tête George Weah, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain du Milan AC, vainqueur du premier tour du 10 octobre, avec 38% des voix exprimées. Le dépouillement des bulletins de vote a commencé hier soir et devrait se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à la proclamation du nom du vainqueur. Les observateurs ont salué le bon déroulement général du vote. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, NDI, a déclaré que si le Libéria réussit cette présidentielle, ce sera une victoire pour lui, pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général. Près de trois décennies après le début d'une guerre civile en 14 ans, le Libéria s'apprête à vivre sa première alternance démocratique entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique.
Au Sénégal, le procès d'une trentaine de djihadistes présumés poursuivis pour actes de terrorisme et financement du terrorisme s'est ouvert ce mercredi devant un tribunal de Dakar et a aussitôt été renvoyé au 14 février. La Russie a perdu aujourd'hui le contact avec le premier satellite angolais de télécom, Angosat 1, d'un coût estimé à 280 millions de dollars. D'après les experts russes, la situation n'est pas exceptionnelle. Le contact peut encore être rétabli et il est encore trop tôt pour parler de perte. Lancé et mis en orbite avec succès hier mardi, Angosat 1 est le fruit d'un accord entre l'Angola et la Russie. Sa mission est l'amélioration des communications par satellite, l'accès à l'Internet et des services de radio-télévision en Afrique. Crise de l'heure noire au Nigeria, où les automobilistes attendent parfois plus de 24 heures dans l'espoir de remplir leurs réservoirs, le tout dans le premier pays producteur de pétrole du continent africain. Les distributeurs affirment que la NNPC, la Nigerian National Petroleum Company, responsable de la distribution du pétrole, n'a pas assez de ressources pour faire face à la demande des 190 millions d'habitants. Mais pour les consommateurs, ce chaos serait plutôt orchestré pour justifier une augmentation du prix de l'essence et du diesel à la pompe l'année prochaine. Les présidents turcs et tunisiens ont affirmé aujourd'hui à Tunis leur détermination à renforcer la coopération, notamment économique, à l'occasion d'une visite officielle de Recep Tayyip Erdogan, qui a signé des accords en matière de défense et d'investissement. La question palestinienne et la crise en Libye voisine étaient également au menu. Après une visite au Soudan et au Tchad, M. Erdogan a atterri hier soir en Tunisie, dernière étape de sa tournée africaine. Au Kenya, l'un des fermiers les plus connus du pays, Gilfred Powis, est mort sur ses terres, piétiné par un éléphant. Héritier d'une famille arrivée du pays de Galles au Kenya au début du XXe siècle, M. Powis était à la tête d'une ferme de près de 20 000 hectares au centre du Kenya, dans la région de Laikipia.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir tué 13 militants islamistes Shebab lors d'une nouvelle frappe menée dimanche dans le sud de la Somalie. Une opération réalisée en coordination avec le gouvernement fédéral somalien. Salwa Jafari.
Des frappes aériennes menées au matin du 24 décembre, la veille de Noël, dans le sud de la Somalie, indique le communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique. Les États-Unis ont multiplié leurs opérations en Somalie ces dernières semaines, accélérant notamment le rythme de leurs attaques de drones contre les Shabab et les djihadistes du groupe État islamique. Les Shabab affiliés à Al-Qaïda tentent depuis 2007 de renverser le gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent dans la capitale et contre des bases militaires somaliennes ou étrangères.
Salwa Jafari. Le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est entretenu ce mercredi avec le premier ministre turc Binali Yildirim du dossier de Jérusalem lors d'une première rencontre entre les deux pays depuis la décision américaine de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. L'Arabie Saoudite et la Turquie sont tous deux alliés des États-Unis et membres de l'OTAN et ont critiqué cette décision du président Donald Trump prise le 6 décembre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en garde aujourd'hui le mouvement islamiste palestinien Hamas contre toute escalade. Nous utiliserons tous les moyens pour défendre notre souveraineté et la sécurité des citoyens israéliens, a averti M. Netanyahou suite à la montée de tensions et de violences provoquées par la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Par ailleurs, le Premier ministre a réaffirmé qu'Israël ne permettra pas à des forces militaires iraniennes d'établir des bases en Syrie en vue de nous attaquer, je citais M. Netanyahou. Téhéran, puissant allié du régime de Bachar al-Assad, envoie en Syrie des conseillers militaires et des volontaires pour combattre les groupes rebelles ou djihadistes. Crise humanitaire en Syrie, des évaluations médicales ont commencé pour des civils fragiles dans la Ghouta orientale, une zone rebelle proche de Damas, assiégée depuis des années par le régime syrien. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le FMI a approuvé un décaissement de plus de 101 millions de dollars pour le Gabon. C'est dans le cadre d'un accord triennal conclu au titre du mécanisme élargi de crédit. Malgré de bons résultats obtenus par Libreville dans l'exécution de ce programme, le FMI estime que la situation économique demeure délicate. Le Gabon est donc prié de réduire davantage le déficit pour commencer à épargner une partie des recettes, mobiliser les recettes non pétrolières et renforcer la gestion des finances publiques et réduire le recours excessif aux exonérations fiscales, renforcer la confiance du secteur privé et la résilience face aux chocs. Le président sénégalais Macky Sall a annulé la concession de 10 000 hectares de terres rizicoles dans la région du Fouta accordée au groupe marocain Afri Partners. C'est à la suite de fortes oppositions de la population locale qui avait notamment saisi récemment la Cour suprême du pays. Enfin, le Soudan dévalue sa monnaie, la livre soudanaise, dans la première semaine de janvier 2018. C'est sur une recommandation du FMI visant à libéraliser cette monnaie qui s'est fortement affaiblie en octobre lorsque Washington a levé son embargo économique. Les commerçants avaient aussitôt augmenté leurs importations et cette situation a provoqué une pénurie de devises fortes. La Banque centrale a pris des mesures pour diriger des liquidités restantes vers des secteurs qui stimulent la croissance. D'après la loi de finances 2018, la croissance du produit intérieur brut devrait franchir la barre des 4%. Le Soudan est la cinquième économie africaine.
Place au sport à présent avec vous, Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Anna et bonsoir à tous.
Alors, Dani Carvajal, appréciez ma prononciation espagnole, croit toujours au titre en Liga espagnole.
Nous n'avons pas encore perdu et Barcelone n'a pas encore gagné, a déclaré le défenseur du Real Madrid. Dani Carvajal veut encore croire à la possibilité de remporter le championnat d'Espagne, malgré la lourde défaite concédée à domicile 3-0 face à Barcelone, qui compte désormais 14 points d'avance dans la course au titre.
Justement, Yacouba, le classico que Tebas considère comme un succès pour s'être adapté au calendrier asiatique.
Tout à fait, Anna. Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est dit satisfait après la programmation du classico Real Madrid FC Barcelone samedi dernier à 13h en Espagne, 12h temps universel. Cet horaire est inhabituel mais mieux adapté pour le public asiatique. Ces dernières années, la Liga a choisi de programmer les matchs du championnat à des moments différents, y compris le matin ou tôt dans l'après-midi, dans le cadre d'une stratégie d'expansion internationale.
En première ligue, Olivier Giroud va finalement rechausser les crampons et ce, dès mi-janvier.
Et Yana, victime d'une déchirure au ischio jambier, la semaine dernière, l'attaquant français d'Arsenal va reprendre la compétition dès le 20 janvier contre Crystal Palace, soit 15 jours plus tôt que ce qui était initialement prévu. C'est du moins ce qu'a affirmé son entraîneur Arsène Wenger.
Allez, Yacouba, on ouvre une fenêtre sur les prochains possibles transferts. Mapu Yanga Mouiba pourrait quitter Lyon cet hiver.
J'adore ce nom, Anna. C'est le quotidien sportif L'Équipe qui évoque le sujet, barré par Marcelo, Jérémy Morel et Mouktar Diakabi. Depuis le début de la saison, seulement 128 minutes de jeu en Ligue 1, Mapu Yanga Mouiba pourrait faire ses valises lors du mercato d'hiver. Le défenseur central d'origine centrafricaine, sous contrat avec l'OL jusqu'en 2020, intéresserait notamment l'Inter Milan, selon L'Équipe. La Fiorentina et Istanbul Başakşehir songeraient aussi aux natifs de Bangui.
Quant à Landry Gemo, eh bien, il a décidé de quitter la division 1, la D1 turque.
C'est mieux pour lui, mis à l'écart à Kayserispor. L'international camerounais a préféré résilier son contrat qui courait jusqu'en 2019. Landry Gemo, 32 ans, l'a annoncé sur Twitter. Arrivé en janvier dernier en Turquie, il n'y aura disputé que 3 matchs.
Il maîtrise la Ghouta comme personne. C'était Yacouba Ouedraogo, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
de votre fidélité à VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le Rassemblement, la principale plateforme d'opposition en République démocratique du Congo, a réuni des signatures d'élus en vue d'attaquer pour inconstitutionnalité la nouvelle loi électorale promulguée hier par le président Joseph Kabila. Selon cette loi, seuls les élus ayant totalisé 1% des voix exprimées sur l'ensemble du pays se verront attribuer des sièges dans les assemblées. Solange Niamoulissa a joint Christophe Lutundula Apala, député national et vice-président du rassemblement du G7, la principale coalition d'opposition donc.
Nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la loi électorale qui institue le seuil de représentativité nationale pour être retenu à l'attribution des sièges. Ce seuil est une condition d'éligibilité qui exclut des candidats indépendants qui sont pourtant reconnus par la Constitution en son article 101. Un indépendant, c'est un candidat pour une circonscription. À l'absolu, il ne peut pas avoir des voix dans d'autres circonscriptions à travers la République pour que ces voix soient additionnées et totaliser le seuil. Donc, le seuil est contraire à la Constitution.
Plus de 50 signatures réunies, parmi lesquelles les députés de la majorité. Comment expliquez-vous que les députés de la majorité se joignent à vous?
La loi concerne tout le Congolais, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Et nous qui avons initié, nous restons ouverts à tous ceux qui veulent s'associer à nous au lieu qu'on introduise plusieurs recours. Et à partir de ce moment-là, sachant bien que les députés de la majorité n'étaient pas tous d'accord pour soutenir les seuls, il est clair à partir de ce moment-là qu'ils saisissent cette opportunité pour exprimer leur voix en dehors de l'hémicycle où ils ont été pratiquement caporalisés et forcés à voter une loi qui viole la Constitution et qui ne permet pas d'instaurer la décrypation politique sans rechercher par les Congolais avec l'appui des partenaires extérieurs.
On vous accuse de retarder la tenue des élections par vos manœuvres dilatoires. Qu'en dites-vous?
Il n'y a aucune manœuvre dilatoire, madame. Ce sont ceux qui ont bloqué les élections par toutes sortes d'artifices depuis bientôt 2 ans qui bloquent. J'entends dire que le fait d'introduire une requête pour inconstitutionnalité va retarder les élections ou ne nous permet pas de nous préparer. C'est faux et archi-faux. Le seuil ne sera d'application qu'au mois de décembre de l'année prochaine. Donc, on ne voit pas trop comment un recours introduit aujourd'hui va-t-il retarder les élections dans ce cadre-là. C'est quand même étonnant que devant une inconstitutionnalité flagrante comme celle-là, devant une loi imposée et qui porte le germe de la violence, de frustration de la conflictualité, on estime que saisir la Cour constitutionnelle pour extirper de la loi tout ce vecteur de déstabilisation et de violence, on estime que c'est retarder les élections. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Élection ne signifie pas se comporter de n'importe quelle manière. Nous avons besoin d'un état de droit, d'un état stable. Et pour ça, il faut que tout le monde respecte la Constitution de la République.
C'était Christophe Lutundula Apala, député national et vice-président du Rassemblement du G7, principale coalition d'opposition en République démocratique du Congo.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Cap sur la Côte d'Ivoire où l'ex-ministre Hubert Houlaye a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan. Monsieur Houlaye est accusé de complicité d'assassinat de 18 personnes, dont 7 soldats de l'ONU. Pour une analyse, Blanche Sanou a joint à Abidjan Céry Gouagnon, vice-président du Front populaire ivoirien, le FPI. Monsieur Gouagnon est chargé de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. On l'écoute.
Nous pensons fondamentalement que Hubert Houlaye, qui d'abord était en exil, lorsque les faits auxquels on fait référence se sont produits en Côte d'Ivoire, n'est coupable de rien. À la lecture, nous nous apercevons qu'il s'agit de museler les hommes politiques les plus influents de l'opposition. Et naturellement, Hubert Houlaye est victime de cela. Quand vous regardez tous les commentaires qui sont faits à la fois par l'opposition et même les partisans du régime, tout le monde est un peu ébahi. Parce que l'homme, on le connaît, en Côte d'Ivoire, c'est un monsieur pondéré et qui, même ayant des responsabilités, est resté humble. Et nous ne comprenons pas comment on a pu arriver à une telle machination qui aboutit en fait à une condamnation infamante pour rien.
Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord avec la défense de M. Oulaye qui estime que c'est un procès politique.
J'étais au procès pendant tous les jours, j'ai suivi tous les débats et je suis ahuri et abasourdi. Mais néanmoins, cette décision, puisqu'il était en liberté provisoire, elle est susceptible de recours. Et nous avons 5 jours pour nous pouvoir en cassation. Nous allons le faire tout en n'espérant pas grand-chose de la cassation, mais sait-on jamais.
Et quel impact sur la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire?
Écoutez, pour l'instant, moi, je ne présage de rien, mais en ce qui concerne Hubert Houlaï lui-même, c'est une façon de l'empêcher d'avoir une vie politique normale. Donc, c'est ça qui est d'abord le premier problème. Le second problème, est-ce que nous allons rester là à regarder, condamner, même sans preuve, tous nos responsables politiques? Ça aussi, il y a lieu qu'on revoie un peu notre méthode de fonctionnement.
C'était Céry Gouagnon, le vice-président du Front populaire ivoirien, le FPI, chargé de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur les faits marquants de l'actualité africaine de ces 12 derniers mois. Comment la République démocratique du Congo est entrée dans une nouvelle période d'incertitude politique et climat d'insécurité? Cette année a marqué également la fin du règne sans partage de certains présidents. Le continent se libère-t-il de ses vieux dirigeants? Le Sahel est-il devenu une cible de choix pour les terroristes? À qui la responsabilité dans le drame des migrants africains? Et le sport africain en 2017, quel bilan? Quels ont été selon vous les principaux événements de 2017 en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Raissa Girondin.
À la fin de l'année 2017, des milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 pourraient perdre leur statut de réfugiés au Congo-Brazzaville. Leur retour au Rwanda est encouragé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La date butoir du 31 décembre 2017 avance à grands pas. Alors comment la situation est-elle perçue au Congo-Brazzaville? Yacouba Ouédraogo a joint Ferdila Ouattara. Elle dirige le bureau du HCR au Congo.
Actuellement, on a une population d'un peu plus de 9000 réfugiés rwandais et un peu plus de 500 demandeurs d'asile rwandais sur le territoire congolais.
La date butoir, c'est le 31 décembre 2017. Après cette date, ces réfugiés qui ne seront pas en situation de régularité vont se retrouver dans la clandestinité, dit Brazzaville. Qu'est-ce qui est fait?
Il y a eu de la sensibilisation, il y a eu des solutions qui ont été offertes aux réfugiés, la possibilité de rentrer au Rwanda avec l'accompagnement du HCR, mais également la possibilité de rester sur le territoire congolais grâce au gouvernement congolais qui a accepté que ceux qui voulaient rester sur le territoire le restent, mais en régularisant leur statut. Il y avait également la possibilité qui était offerte aux réfugiés qui estimaient qu'ils devaient continuer à bénéficier du statut de réfugié, donc de demander à être exemptés de l'application de la cessation. On a eu plus de 3000 demandes justement dans ce sens-là. Pratiquement tous les réfugiés ont demandé à ce que leur situation personnelle soit examinée. Et cet examen a duré de 2016 à 2017. À l'issue de l'examen, il y a eu plus de 800 réfugiés qui ont pu démontrer qu'ils avaient continué à bénéficier du statut de réfugié. Mais les autres n'ont pas pu démontrer, les commissions interministérielles sont statuées sur leur dossier, mais la possibilité était offerte de régulariser leur séjour au République du Congo. La possibilité est toujours offerte d'ailleurs.
Ceux qui ne veulent pas rentrer au Rwanda, qu'est-ce qu'ils avancent comme raison?
Les raisons pour lesquelles d'abord ils sont devenus réfugiés en République du Congo sont essentiellement liées à la question du génocide. Ce que nous expliquons aux réfugiés, c'est qu'aujourd'hui, il est évident qu'il n'y a pas de problème de génocide en République du Rwanda. Maintenant, les craintes qu'ils ont, ils se plaignent de la situation des droits de l'homme au Rwanda, de la situation économique au Rwanda, mais qui ne sont pas en lien avec les raisons pour lesquelles ils étaient initialement venus en République du Congo.
La date butoir, on le disait tantôt, c'est le 31 décembre 2017. Est-ce que vous craignez que beaucoup d'entre ces réfugiés-là tombent dans la clandestinité?
Nous ne voulons pas justement qu'ils tombent dans la clandestinité. La possibilité est encore offerte pour ceux qui veulent se rapatrier, de se rapprocher du HCR, pour ceux qui veulent rester sur le territoire congolais, de se rapprocher du Sénat pour initier justement la demande de permis de séjour sur le territoire congolais.
Le 31-2017, c'est dans 4 jours. S'il y a des demandes qui sont en cours, et donc ce n'est pas évident que toutes ces demandes-là puissent recevoir réponse avant la date butoir.
Nous avons mis en place un guichet unique pour recevoir spécifiquement les demandes de ces personnes qui veulent rester sur le territoire. Une fois que vous avez déposé une demande, que ce soit de rapatriement ou d'intégration locale, tant qu'on n'a pas trouvé la solution que vous avez demandée, vous bénéficiez d'un effet suspensif en fait de l'application de la clause de cessation.
Ferdila Ouattara, chef du bureau du HCR au Congo, Brazzaville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour sur la visite du président turc au Tchad. Visite officielle qui a permis à Recep Tayyip Erdogan et Idriss Déby Itno de signer 5 accords de coopération. Décryptage de cette visite par notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
En dehors du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, cette visite s'inscrit également dans le cadre de la reconnaissance du président turc à son homologue tchadien. Reconnaissance pour avoir saisi et transféré à une fondation Marif de la Turquie un complexe scolaire international créé en 2001 par une société à responsabilité limitée de 3 tchadiens, des associés de nationalité turque dénommée Baskent. En 2016, l'État turc a saisi les autorités tchadiennes de la perte des personnalités et des responsables de la dite société puisqu'ils seraient impliqués dans le coup d'État manqué en République des Turcs il y a plus d'une année. Et c'est plus de 16 ans après que Idriss Déby Itno assimile ceux qu'il considérait comme des bienfaiteurs hier à des terroristes.
Ces écoles qui ont été gérées en son temps par des gens qui sont peut-être douteux sont aujourd'hui entre de bonnes mains. Et nous sommes sûrs que nos enfants ne vont pas être déviés par les terroristes. Comme vous savez, mon frère le président Erdogan a échappé à une action terroriste. Et nous, nous faisons aussi face au terrorisme ici au niveau du Tchad comme au niveau du Sahel. Cette question de lutte contre le terrorisme a son importance.
Se réjouissant de l'acte posé par l'État tchadien, le président turc Recep Tayyip Erdogan rassure son hôte de son soutien dans la lutte contre le terrorisme. Ses propos ont été traduits par une interprète turque.
J'aimerais ici remercier Monsieur le Président pour avoir déclaré comme organisation terroriste la FETE. Vous avez également été à nos côtés dans notre lutte contre cette organisation terroriste et les institutions qui y sont affiliées. Évidemment, nous serons également aux côtés du Tchad dans sa lutte antiterroriste.
Le conseil de la société Baskent qui exploite ce complexe scolaire international pendant plusieurs années se dit déçu des agissements des autorités tchadiennes dans ce dossier. Abdelkerim Mohamed Kresh, avocat au barreau du Tchad et de Paris.
L'article 12, alinéa 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose « L'étranger légalement admis sur le territoire d'un État parti à la présente charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. L'État tchadien a purement et simplement violé cette disposition de la charte qu'il a ratifiée en date du 9 octobre 1986. Il s'agit d'une spoliation de biens au profit d'une association de droit turc ne disposant d'aucun droit de propriété sur ces biens.
Le complexe a construit 2 immeubles dans 2 quartiers nord de la capitale dont le coût global est estimé à plus de 4 147 millions de francs CFA. André Kodmajingar Ndjamena pour VO Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle a été mise en onde par Joël Morissin, assisté à la console de Aiden Otkour. Je suis Anastasie Tudiech. Restez avec nous. L'information continue sur VOA Afrique via notre site internet www.voafrique.com et notre page Facebook, bien entendu, pour vous qui êtes passionnés d'information 24 heures sur 24. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.